Nous recevons donc aujourd'hui M. Alfred Vidal-Majar, qui est directeur de recherche au CNRS, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il travaille principalement sur la cosmologie et les systèmes planétaires extrasolaires. Il a publié deux ouvrages que vous pouvez trouver aussi dans les librairies. Le premier, donc, Il pleut des planètes, qui est sorti dans la collection Hachette Littérature en 1999, dont vous avez un exemplaire à l'écran. Et puis le deuxième qui est sorti chez Fayard donc cette année, qui s'intitule « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» et qui regroupe des entretiens avec quatre astrophysiciens, dont M. Vidal-Majar.
Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des planètes extrasolaires, mais avant, je voudrais brièvement vous raconter une histoire qui commence comme ça. Il était une fois, et vraiment dans ce cas-là, il était une fois parce que c'est le Big Bang, donc ça n'a eu lieu qu'une fois. Et c'est une histoire très étrange parce que quand on dit « il était une fois », on parle du temps. Et dans cette affaire, pour savoir comment ça a commencé, il faut se poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant, évidemment. Et avant le Big Bang, il n'y avait même pas encore le temps. Donc la question est très difficile et même étrange, d'une certaine façon. Je fais juste une toute petite parenthèse au début de cette conférence pour essayer de vous montrer une chose extraordinaire. En d'autres termes, nous vivons dans un univers formidable parce qu'on arrive à en voir la limite. On est à l'intérieur d'une bulle. En deux mots, voilà comment vous allez le comprendre. Vous comprenez très bien qu'une étoile ait l'air d'être une boule lumineuse ronde sur laquelle votre regard se pose et n'arrive pas du tout à pénétrer à l'intérieur pour une raison simple, c'est qu'à partir d'un moment, la densité de la matière devient tellement grande que l'objet devient opaque. Et donc on voit un mur lumineux. C'est le dessin du bas ici. Vous voyez, votre regard se porte et à un moment donné, il tape sur un mur dense et opaque, chaud aussi et brillant. C'est pour ça qu'on voit les étoiles bien rondes dans le ciel. Maintenant, vous savez que l'univers est en expansion et donc ça veut dire qu'actuellement, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc si je vais dans le passé, toutes les galaxies se remontent dans le temps, toutes les galaxies se rapprochaient. Et si elles se rapprochaient en remontant dans le temps, vous imaginez que l'univers est de plus en plus dense quand je le regarde dans le passé. Et comme quand je regarde loin, à cause de la vitesse de la lumière, je regarde dans le passé, vous voyez bien que je vais regarder quelque chose de plus en plus dense. Eh bien, il se passe le même phénomène. Quand je suis là au centre et que je regarde loin, à un moment donné, je vais taper sur un mur opaque que mon regard ne pourra pas traverser. Et ce mur, je le vois dans toutes les directions du ciel. Et ce mur est observé aujourd'hui et il est tout à fait extraordinaire. Je vais même vous en montrer une image. Vous voyez directement une image de la naissance de l'univers. C'est la surface du Soleil. Et la surface du Soleil est quelque chose qui a une apparence qui est représentée ici, qui est même un petit peu originale dans la mesure où il y a eu... C'est le satellite SOHO qui a fait cette image. Il y a eu une éruption et cette éruption a provoqué une vague qu'on voit se répandre à la surface du Soleil. Bon, c'est quelque chose de très beau. Mais essentiellement, ce que je voulais vous montrer, c'est que la surface a l'air d'être quelque chose d'un peu granuleux comme ça. Donc la surface d'une étoile a une certaine apparence. Regardez, ça c'est la surface de l'univers, vue exactement de la même façon. Et ça c'est les résultats d'une expérience qui s'appelle Boomerang, qui vient de faire cette observation il y a à peine quelques mois. Et c'est tout à fait extraordinaire. Vous voyez en direct ce mur brillant, et dans n'importe quelle direction du ciel, où que vous regardiez, vous verrez ce mur. Donc toute notre histoire commence là, une longue histoire, et ceux qui ont eu la chance d'écouter Michel Cassé il y a deux jours, qui a eu la gentillesse de permuter avec moi, ont dû voir ce qui se passait après cette naissance de l'univers, des étoiles se forment, et ces étoiles, au cours de leur vie, rejette de la matière, et cette matière est lentement changée en composition, et sa composition devient celle que nous trouvons aujourd'hui à peu près partout dans l'univers, c'est-à-dire c'est une courbe qui donne avec la masse de chaque élément sa quantité, combien on en a dans l'univers. Vous n'arrivez probablement pas à lire, mais tous les éléments les plus abondants Alors plus c'est haut, plus il y en a. Et les éléments les plus abondants, c'est le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène qui est encore plus haut là, il est en dehors de la figure. Ça veut dire que dans l'univers, nous avons des étoiles qui ont eu la gentillesse de fabriquer tous les atomes dont nous sommes faits. Et en plus, c'est des atomes extrêmement abondants. Donc on va avoir tout ce qu'il faut pour faire quelque chose, et entre autres, ça, c'est-à-dire une belle planète. Et là aussi, on a une chance formidable parce qu'on est sur une très belle planète, vous voyez. Et l'ensemble des éléments qui la composent sont effectivement beaucoup à partir de ces éléments qui ont été faits, enfin tous à partir des éléments faits depuis les étoiles. Alors comme on est sur une belle planète, je fais toujours des petites digressions et je vous invite à profiter de cette belle planète qui nous offre des spectacles magnifiques. Ici, vous avez un spectacle qui est une éclipse totale qui a eu lieu au nord du Chili, à 4500 mètres d'altitude, il y a quelques années. Et si vous n'avez pas vu celle qui a eu lieu en 1999 en France, je vous recommande d'aller chercher à gauche, à droite, quand il y en aura. Mais je vous rappelle qu'au moment de cette éclipse, on a eu des problèmes, et entre autres, il faut faire très attention. Vous voyez, pendant les éclipses, les sourds peuvent devenir aveugles, donc soyez très prudents avec ces choses-là. Alors évidemment, si vous les avez ratés, c'est peut-être parce que vous n'avez pas écouté les journaux, mais enfin, ça, les journaux, lu les journaux, écoutez. Enfin, si vous écoutez bien les journaux, vous saurez. Et donc... Là, je vais vous donner quelques petits rendez-vous. Évidemment, ce n'est pas très visible, mais celle que vous avez peut-être ratée, c'est celle-là, en 99. Vous voyez, la prochaine aura lieu ici. Elle passera un peu sur Madagascar. Elle aura lieu en juin 2001. Et vous pouvez la voir à Madagascar, mais vous pouvez la voir aussi en Angola. Là, par contre, si vous avez des difficultés et vous vous retrouvez coincé pour une raison ou pour une autre, ne soyez pas trop triste, parce que juste un an après, il y a une autre éclipse totale. Donc vous voyez que parfois, on a des ennuis, mais pas sur toute la ligne. Alors, donc, une très très belle que je vous recommande, qui aura lieu en 2006, vous voyez, elle passe là, à la frontière de la Libye et de l'Égypte, et là, le temps sera magnifique. Et je suis sûr que vous irez tous vous retrouver. On se retrouvera tous là-bas. Alors donc, on est sur une planète magnifique. En voilà une autre image que vous connaissez peut-être aussi. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit la Lune à cet endroit. Et elle a un croissant qui a la forme de ma main, comme ça. Je ne sais pas si vous l'imaginez, mais elle est tournée comme ça. Et ça, simplement, quand vous êtes sur une planète, et il se trouve qu'on est sur cette planète-là, mais quand vous êtes sur une planète et que vous voyez un satellite qui a une forme comme ça, il vous dit, le soleil est là-bas, quelque part, en train de l'éclairer. Et effectivement, le coucher de soleil vient d'avoir lieu et le soleil est là-bas. Et si vous tracez par l'imagination cette ligne sur le ciel, vous allez rencontrer des choses étonnantes. Vous avez des petits points brillants, comme ça. Là, il y a Vénus, là, il y a Jupiter. Et en fait, où que vous soyez sur la planète, vous vous rendez compte aussi que vous êtes dans un système solaire. C'est-à-dire qu'on est dans une planète formidable, on est sur une planète formidable, mais on est aussi dans un système solaire extraordinaire parce qu'on le perçoit physiquement rien qu'en voyant cette ligne. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous le faire sentir parce que c'est une sensation tellement incroyable que parfois on la rate et c'est dommage. Vous voyez, ça c'est une image de Jupiter vue par derrière, un satellite qui a été lancé et passé derrière, et on voit l'anneau de Jupiter. Alors c'est un anneau très fin qui est très difficile à voir, mais il peut être vu de cette façon-là quand le soleil de l'autre côté l'éclaire et on le voit par la diffusion des poussières. Donc vous voyez, cet anneau, il ressemble à une ligne, et comme on est dans le même plan, on a l'impression de voir une ligne sur le ciel. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette photo de la pyramide du Louvre. Il y avait la Lune, il y avait le soleil couché, il y avait Vénus, il y avait Jupiter, c'était une ligne. Et cette ligne, c'est notre ligne à nous, c'est notre plan de notre système solaire, c'est quelque chose qu'on perçoit physiquement et qui est un plaisir sans cesse renouvelé. Alors regardez un exemple étonnant. Voilà un dessin qui a été fait par Lucien Rudeau au début du siècle, où il a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait Saturne vu depuis un de ses satellites. Donc il a fait un paysage avec quelques collines comme ça, et il est debout sur son satellite et on voit Saturne apparaître. Et vous remarquez tout de suite la chose étonnante, c'est que dans le système de Saturne, évidemment il y a un plan comme pour nous le plan de l'écliptique avec toutes les planètes. Là, c'est un plan où il y a les anneaux et il y a tous les petits satellites. Et ce plan-là, il est matérialisé puisqu'on voit cette ligne. Et comme on est, nous, sur l'un des satellites, évidemment, on est dans le plan, donc c'est normal qu'il apparaisse comme une ligne. Alors vous avez l'impression, bon, bah, finalement, c'est un joli dessin. Mais regardez, si je tourne simplement le dessin comme ça, vous voyez qu'immédiatement, vous voyez ce plan. Vous avez l'impression d'être debout dessus. Là, évidemment, vous étiez à l'équateur du satellite, donc vous aviez l'impression que le plan était perdu. Mais du coup, maintenant, vous le percevez comme une réalité physique, et c'est ce qui se passe dans notre système solaire. Je vous assure, profitez-en. Chaque fois que vous avez l'occasion, allongez-vous sur l'herbe, regardez le ciel. Vous voyez, là, j'ai un dessin de GB qu'il avait fait complètement indépendamment il y a très longtemps, et j'avais demandé la permission de le remontrer. Mais c'est exactement ça. Il avait mis un personnage allongé sur le ciel, allongé sur l'herbe. Je mélange tout. Et en regardant un peu le recul, quand vous êtes allongé sur l'herbe, vous devez vous imaginer que vous avez derrière vous la Terre. Vous n'êtes pas du tout allongé sur l'herbe comme ça, mais que vous êtes debout. Vous voyez le petit personnage debout, avec toute la Terre derrière lui qui le pousse. Et il avance dans un vaisseau spatial fantastique, le plus beau qu'on puisse imaginer, avec vue sur l'espace de tous les côtés à 180 degrés. Alors donc, notre système solaire est quelque chose de bien plat, vous avez vu, ça se voit, ça se sent physiquement. Et là, c'est une image, c'est pas vraiment une image, mais c'est ce que le satellite voyageur qui est en train de quitter le système solaire voit, enfin a vu, parce que ça a été fait depuis un moment, en se tournant et en regardant notre système solaire. Il est en train de le quitter en sortant du plan, donc il le voit du dessus. Et vous voyez, ces lignes, évidemment, sont les orbites des planètes qu'on ne voit pas, mais ça vous matérialise ce plan. Une fois qu'on en sort, évidemment, on ne le voit plus. Les planètes ne sont plus que des petits points lumineux parmi les étoiles, et au milieu, évidemment, il y a le Soleil. Mais on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est que tout a l'air d'être ramassé sur le Soleil. Et pour cela, avant d'aller vous parler d'autres systèmes planétaires, je vais vous parler d'une autre, et vous donner une idée des dimensions, parce que tant qu'on n'a pas une idée des dimensions, on est perdu. Alors, je vous ai amené plusieurs petits objets sympathiques. Voilà, un jour, on m'a offert ça, c'est des petits mimosas séchés. Et j'ai trouvé que c'était magnifique, parce que vous voyez, cette boule, si j'imagine que c'est le Soleil et que je ramène le Soleil à cette échelle, à ce moment-là, on se pose tout de suite la question, mais où vont être les planètes? Alors les planètes, évidemment, il faut que je vous les sorte aussi. C'est toujours plus compliqué. Je vais sauter Mercure et Vénus parce que je n'ai pas trop de temps. Mais voilà la Terre. Vous voyez la Terre? À l'échelle de ce Soleil, voilà la Terre. Et où je la placerai, la Terre? Malheureusement, je n'ai pas le droit de dépasser les lignes vertes là parce qu'on ne me verrait plus. Mais je serais obligé d'aller quand même à plus de 5 mètres d'ici. C'est-à-dire quand même au bord là-bas de l'amphi. À ce moment-là, si la Terre est effectivement là-bas à 5 mètres, vous voyez, la Lune, elle serait ici, juste à côté. Et le système Terre-Lune, c'est ce petit ensemble de deux têtes d'épingle qui tourne à 5 mètres en un an autour de cette boule jaune magnifique qui est le Soleil, qui est donc l'objet principal, évidemment, de notre système solaire. Alors, maintenant, vous me dites, mais bon, la Terre, c'est vraiment une planète un peu ridicule, elle est minuscule, on a une planète géante chez nous, on peut en être fier, c'est Jupiter, la voilà. Et vous voyez, Jupiter, par rapport au Soleil, ça commence à être présentable, effectivement, elle est pas mal, mais elle est à 25 mètres d'ici. Et ça, c'est la grande, grande planète de notre système solaire. Donc, vous imaginez le système solaire, après, il y a Saturne, Uranus, Neptune, donc c'est un peu moins gros, mais enfin, un peu comme ça, et ça va s'étaler jusqu'à, mettons, une centaine de mètres d'ici. Donc, finalement, un système planétaire, c'est une étoile qui est énorme et qui brille, en plus, plus des tout petits trucs sombres, inobservables, pratiquement inexistants, qui tournent à une centaine de mètres de là autour. Alors on se dit, mais où est l'étoile suivante? La première étoile que je vais trouver en quittant mon système planétaire, où je dois aller? Alors à cette échelle, tout le système est dans 100 mètres, la première étoile que je vais rencontrer sera à 1300 km d'ici. Et vous voyez, à 1300 km d'ici, je vais avoir une autre magnifique boule jaune faite avec du mimosa séché, mais j'aurai autour quelques petites têtes d'épingle peut-être, peut-être une petite boule un peu plus grosse, mais vous voyez, j'aurai pas plus. Et l'exercice pour les découvrir, c'est d'arriver à voir à 1300 km d'ici, à côté de quelque chose d'extrêmement brillant, des choses toutes petites et quasiment invisibles. C'est complètement désespéré. Ceci dit, ça fait très longtemps que les gens essayent quand même. Et fort heureusement, depuis peu, on a réussi. Et je vais vous raconter comment on a réussi. Alors, comment on a réussi ? Pour cela, il faut que je vous dise en deux mots comment travaillent les astronomes. Et ça, c'est important parce que sinon, on n'arrive pas à bien comprendre. Alors, les astronomes, vous voyez là un astronome en plein travail. C'est extraordinaire, c'est une boîte de camembert qui a existé, qui s'appelait La Planète. Alors, j'avoue que j'ai été ravi quand j'ai trouvé ça. Et l'astronome, là, regarde dans sa lunette et regarde au loin. Alors, il regarde, ça c'est vrai, il observe. C'est une chose très importante. Et une fois qu'il a observé, ou même avant d'observer parfois, il se dit, ce que je suis en train de voir, je vais essayer de m'en faire une idée, ce qu'on appelle un modèle ou une théorie, vous appelez ça comme vous le voulez. Et en gros, il échafaude une espèce de représentation un peu dans sa tête, qui est en général tout à fait fausse, bien sûr, mais il commence comme ça. Et puis il retourne et dit, je vais recommencer à observer. Et il revient, il va, il vient. Alors par exemple, si un astronome s'était élaboré le modèle d'une vache, mais il ne sait pas très bien ce que c'est qu'une vache, mais il a peut-être des idées, eh bien, il aurait commencé par faire un modèle comme ça. Et puis, petit à petit, il se dira, bon, mais c'est peut-être pas exact, donc mon modèle de vache est bon, mais il n'est pas parfait. Donc il retourne dans les prés, il va regarder les vaches de plus près, il va voir que, bon, il doit changer deux, trois petites choses, et petit à petit, donc, on avance comme ça. Ça a l'air d'être un peu ridicule, donc ne critiquez pas les astronomes, ou enfin, n'allez pas répéter à tout le monde qu'on travaille comme ça, parce qu'on va couper nos budgets, mais ceci dit, profondément, toute la recherche scientifique fonctionne comme ça. Donc, si vous le faites, à ce moment-là, on coupera tous les budgets de tout le monde, donc ça ira. Alors voilà comment on marche, on fait la chose suivante, on se dit, mais alors comment on va faire un système planétaire ? Alors un système planétaire, c'est quand même, on voit le travail fini là, avec notre système solaire, on se dit, comment on a pu arriver à ça ? Alors il y a eu beaucoup d'idées, là je vous montre celle finalement qui a marché, la vache sphérique qui ressemble le plus à la réalité, et vous voyez que le modèle est le suivant, c'est-à-dire que nous commençons par avoir un gros nuage dans le milieu interstellaire, et ça on en voit, vous avez dû voir des photos de ça souvent, je vous en montrais d'ailleurs, qui à un moment donné est tellement massif qu'il arrive à attirer la matière vers l'intérieur. Vous voyez, simplement parce qu'un atome au bord, il sent l'attraction de tous les atomes à l'intérieur, et puis à l'extérieur, il y en a pas. Donc, schématiquement, il va avoir tendance à vouloir aller vers l'intérieur. Donc, à une certaine dimension, ce système va s'effondrer sur lui-même. Mais il va s'effondrer, vous voyez que comme il tourne, il va se mettre à tourner de plus en plus vite. Et en tournant de plus en plus vite, ceux qui tombent le long de son axe, rien ne les empêche de tomber, donc ils vont tomber, ça va s'aplatir. Par contre, ceux qui tournent là très très vite, il va y avoir la force centrifuge qui va les empêcher de tomber. Donc on avance naturellement vers un système qui va former un disque, et puis après on se dit, ben, dans ce disque, il va se passer des choses qui vont finalement nous faire au milieu une étoile et autour des tas de petites planètes qui tournent. Donc ça, c'est une idée très ancienne. Maintenant, il fallait la regarder dans tous les détails pour être sûr qu'elle marche, et donc retourner dans le pré, voir si notre vache sphérique a bien la bonne forme. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, voilà l'histoire, elle est vérifiée de bout en bout par des observations. C'est-à-dire que maintenant, on sait bien comment ça marche. Bien sûr, il y a toujours encore des détails qui ne collent pas, et ça, justement, c'est ce qu'il y a d'amusant dans l'affaire, mais l'essentiel de l'histoire est celle-là. C'est-à-dire que notre nuage, quand il s'est condensé, au bout de 100 000 ans, il va avoir bien cette forme de disque qui est très épais et complètement opaque, mais encore à 100 000 ans, il est encore enfoui dans le grand nuage dans lequel il s'est condensé, parce qu'il y a un beaucoup plus grand nuage autour. Et là, c'est ce que je vais vous montrer des images du télescope spatial qui montrent qu'on voit ça vraiment. Je vous dis rapidement les étapes. Au bout d'un million d'années, il sort du nuage, il émerge, l'étoile commence à briller, mais il y a encore ce disque opaque. Et ça aussi, je vais vous montrer des images, on le voit, on voit que toutes ces étapes sont traversées. Après 10 millions d'années, c'est l'étape où maintenant tout le disque va commencer à disparaître et il a fabriqué des planètes. Et à cette époque-là, les planètes géantes doivent être faites. Donc ça, c'est une époque aussi qu'on observe. Ensuite, 100 millions d'années, ben là, il va falloir beaucoup plus de temps pour faire dans ce qu'on appelle maintenant un disque de débris, c'est des objets qui sont en collision, qui vont fabriquer petit à petit des terres. Il faut plus de temps pour faire les petites planètes que les très grosses. Et enfin, au bout d'un milliard d'années, on arrive à quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que nous connaissons ici. Et bien, toutes ces étapes, je vais vous les montrer. Et donc, la première, c'est ces grands nuages interstellaires où la matière se condense. Et vous voyez là, c'est une nébuleuse qui s'appelle M16. Vous voyez quelque chose? Parce que moi, je ne vois rien du tout. Vous voyez comme des grandes montagnes, là. Et ça, c'est vu du sol. Donc, c'était déjà des très belles images. On se rendait compte que c'était des endroits où devaient naître des étoiles. Mais voilà l'image du télescope spatial. Et elle est tellement... D'abord, je crois qu'elle est très connue. Et elle est magnifique. Et je l'ai en diapositive. Oui, c'était pour vous dire qu'on est sur une belle planète, la Terre, en deux mots. Enfin bon, c'est passé. Non, c'était pour dire, ça c'est le delta du Nil, l'éclipse dont j'ai parlé aura lieu ici. Puis ça c'est la côte de la Méditerranée, et là-bas, plus loin, Israël, le Liban, etc., et la Turquie là-haut. Donc la diapo suivante, c'est pour vous parler d'un modèle. Vous voyez, vous pouvez faire un modèle de la Lune en imaginant que c'est creux, et puis après vous allez derrière et vous constatez que le modèle ne marche pas. C'est comme ça qu'on fait des progrès. Alors la suivante. Et vous voyez ces grandes colonnes de matière très dense, c'est des nuages dans lesquels, à l'intérieur desquels, des grumeaux commencent à se condenser et forment des nouvelles étoiles et des nouveaux systèmes planétaires. Mais on ne les voit pas, on sait qu'ils sont à l'intérieur, mais il se passe une chose extraordinaire. Vous voyez ces étoiles très brillantes, il y en a une là, et puis il y en a tout un groupe au-dessus, là-haut, qui sont en dehors de l'image, mais qui font que ces nuages s'évaporent. Et la diapo suivante va nous montrer un agrandissement du haut de cette grande colonne qu'il y avait à gauche. Et vous voyez que vous voyez des tas de petites cornes comme ça. Ces petites cornes, en fait, au bout de chacune, j'ai un petit système planétaire et une étoile en train de naître, qui sont devenus un endroit tellement dense et opaque, qui fait qu'ils protègent le reste du nuage en faisant comme une ombre portée de l'évaporation due aux étoiles au-dessus. C'est-à-dire que tout le grand nuage, là, qui est encore assez dilué, s'évapore dans le vide autour. Par contre, là, il y a une petite protection. Et au bout de chacune de ces petites cornes, vous voyez, il y a un système en train de naître avec une étoile et un disque. Mais on ne les voit pas directement, mais on sait qu'ils sont là. Et vous voyez finalement que ce modèle de la vache sphérique est assez compréhensible, puisqu'on voit déjà les cornes là et tout ça. Alors, l'étape suivante, c'est là on est à 100 000 ans, donc on est enfoui dans le nuage. On a envie de voir quand même comment ça se passe après. Alors, l'étape suivante, c'est vraiment voir les disques. Alors, on veut voir les disques. Là, ceux qui connaissent bien le ciel reconnaissent immédiatement le trapèze d'Orion, qui est quatre étoiles très brillantes au cœur d'Orion. Et ces quatre étoiles-là ont une telle luminosité et doivent éjecter tellement de vent et de matière qu'il y a tout autour de toutes petites choses un peu bizarres qu'on avait vues d'ailleurs depuis assez longtemps de la Terre, mais on n'avait pas pu les comprendre jusqu'à ce que le télescope spatial les montre. Et donc, justement, la diapo précédente, plutôt, deux diapos précédentes, même, si on peut les montrer. Parce que finalement, les diapos, on les voit beaucoup mieux. Enfin, moi, en tout cas, je les vois mieux. Voilà, par exemple, ou celle d'avant encore. Voilà, c'est un de ces qui était sur la photo d'avant, mais un peu agrandi. Et là, vous voyez une espèce de tache ovale ronde avec une petite lumière au centre. C'est exactement un système planétaire, un disque, vu un peu de biais, et la petite étoile qui est allumée au milieu. Et là, c'en est une autre, mais qui est prise. Alors, la petite chose noire à l'intérieur, c'est ce disque qu'on peut imaginer à moitié enfoui, mais qui est prise dans la luminosité de l'étoile très chaude à côté et le vent qui est en train de complètement le faire disparaître et se volatiliser. Alors, la diapo, donc, celle-là, c'est donc des tas d'exemples agrandis. Et vous voyez, là, c'est un exemple très spectaculaire. Ça, c'était le petit disque ovale que je vous ai montré avec l'étoile au milieu. Celui-là, c'est un disque qui est quasiment vu par la tranche. Et vous voyez, on voit la lueur de l'étoile qui commence à s'allumer au milieu et qui émerge en dessus et en dessous aussi, on la voit apparaître, de ce disque très opaque. Pour vous donner une idée, l'échelle du système solaire ici est grande comme le haut de la petite barre du U, là, le petit truc là-haut. Ça, c'est notre système solaire ici. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le système solaire. Et la diapo suivante, non, pardon, le transparent suivant, donne un agrandissement de ce genre de disque. Alors, enfin, il y en a plusieurs, on en a découvert près de 150, vous voyez, ces disques très opaques. Là, l'étoile est même enfouie, on ne la voit pas, et là, l'étoile émerge. Donc, vous voyez, c'est la deuxième étape, elle est vue aussi, on sait que ces systèmes sont en marche et qui commencent à se faire. Alors, l'étape suivante, c'est 10 millions d'années. On est arrivé au moment où on est en train de digérer tout ce disque de matière pour fabriquer des planètes. Une partie pour fabriquer des planètes, une autre partie va être perdue, soit éjectée dans l'espace, soit va tomber sur l'étoile centrale. Et là, deux images du télescope spatial montrent que maintenant on voit aussi autour de plusieurs étoiles maintenant, mais là je vous donne deux exemples, où on a pu cacher la lumière de l'étoile, parce que toujours dans le problème de ces observations, c'est de ne pas être ébloui. On voit un disque là en forme presque d'un anneau, et là un disque beaucoup plus étendu, et avec une bande noire au milieu. Alors, dans les deux cas, l'interprétation, c'est de dire un disque qui n'a qu'une forme d'anneau, il faut probablement des planètes pour essayer de balayer et empêcher que cette poussière, parce que c'est de la poussière, s'éparpille partout. Donc on pense qu'il y a déjà effectivement ces planètes fabriquées dans ces disques. Alors l'étape suivante, c'est celle qui est ce qu'on appelle les disques de débris, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cailloux, de comètes, d'astéroïdes, de choses qui circulent dans le système planétaire en formation et qui n'arrêtent pas de rentrer en collision. Et les plus gros vont grossir au détriment des plus petits. Et là, c'est un exemple de collision qui a été dessiné, mais c'est pour vous dire que c'est des choses qui arrivaient d'une manière extrêmement fréquente, et ça a eu lieu dans notre système solaire. Pendant les premiers 700 millions d'années du système solaire, la Terre, la Lune, enfin tous les astres du système solaire ont reçu des bombardements d'astéroïdes et de comètes considérables qui les ont d'ailleurs marqués, et cette époque, on sait qu'elle a duré 700 millions d'années. Donc c'est cette période-là qui amène à des disques tout à fait différents. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de collisions d'objets dans un plan et qu'ils éjectent des débris dans tous les sens, ces débris vont faire de la poussière et du gaz qui va se répandre dans un immense disque. Et cet immense disque, on l'a vu pour la première fois autour de l'étoile Beta Pictoris. Voilà l'image, vous voyez l'étoile est cachée par un masque pour ne pas avoir le problème de sa lumière. Et on voit le disque s'étendre et là on a la chance de le voir complètement par la tranche. Alors j'en parle avec beaucoup d'émotion puisque Beta Pictoris... On est copains depuis près de 15 ans maintenant. Et on a réussi à voir qu'autour de cette étoile, il y a, ça c'est un dessin évidemment, il y a des comètes qui n'arrêtent pas de tomber sur l'étoile. Donc on a vraiment vu des objets dans un système planétaire compact qui tournait dans tous les sens. Et pour vous faire une comparaison, regardez cette image du satellite SOHO qui regarde le Soleil et qui voit, le Soleil est caché derrière, et qui voit tomber une comète dans notre propre système solaire. En ce moment, il en voit plusieurs dizaines par an. Donc ce n'est pas un événement tellement rare. Sur Beta Pictoris, c'est plusieurs par jour qui tombent sur l'étoile. Donc on a découvert ça, et donc on a été tout à fait enthousiaste, et on n'a pas arrêté d'observer cette étoile. Et un jour, en novembre 1981, une nuit plutôt, en novembre 1981, en regardant l'étoile, on a vu sa luminosité faire une courbe extrêmement étrange, et en particulier la chute très brutale au cours de la nuit du 10 novembre. Voilà, on l'a interprété comme étant une chute de quelques pourcents, et donc due peut-être à un objet de la taille un peu plus gros que Jupiter qui serait mis à passer devant le disque à ce moment-là. Alors c'est peut-être la première détection d'une planète. Le problème, c'est que pour en être convaincu, il faudrait qu'elle recommence. Et si elle a une orbite de, je sais pas, 30-40 ans, vous voyez qu'on peut attendre longtemps. Alors en attendant, moi je me suis imaginé à décrire cette planète, vous voyez, comme une planète avec un anneau de Saturne, puisque je trouvais qu'elle était un peu grosse par rapport à Jupiter, mais avec un anneau, elle aurait pu faire l'affaire. Donc là on en est encore à une détection de planète possible. Les vraies détections de planètes, ça a été fait pour la première fois en 92, de manière indiscutable autour d'un pulsar. Vous voyez la taille du Soleil, la position de Mercure et Vénus. Eh bien, autour d'un pulsar, on a découvert trois planètes qui ont à peu près, deux d'entre elles, la taille de la Terre, un peu plus grosse que la Terre, et une comme la Lune à peu près. Et donc ça, c'est confirmé parce que c'est des systèmes qui n'arrêtent pas de tourner. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, mais alors maintenant, les planètes vraiment dont on est complètement sûr, alors voilà. Ça, c'est pas une photo d'une planète. Ça, c'est un astéroïde dans le système solaire qui s'appelle Ida. Et à côté, on a découvert un tout petit astéroïde satellite qu'on a nommé Dactyl. Et l'échelle Ida fait à peu près une cinquantaine de kilomètres de long. Mais vous voyez que, pour vous donner l'échelle, là, j'ai mis la tour Eiffel sur Dactyl. Comme ça, vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. Vous voyez la tour Eiffel, là. Vous voyez, c'est un tout petit truc. Mais ce tout petit Dactyl tourne autour de Ida et a un mouvement qui va avoir l'effet suivant, c'est que bien sûr, il a l'air de tourner en orbite autour de Ida, mais en même temps, même tout petit, sa masse, aussi petite soit-elle, va un tout petit peu attirer Dactyl d'avant en arrière. Et donc va faire un balancement infime, mais qu'on va essayer d'imaginer ou de voir. Et l'idée, c'est que les planètes comme tout à l'heure les épingles, ou même les Jupiter, qui tournent autour d'un Soleil, vont entraîner un tout petit balancement. Vous voyez, Jupiter en 11 ans fait le tour, donc le Soleil va faire un petit balancement, comme ça, à peu près de cette taille d'ailleurs. C'est comme s'il tournait par rapport à un bord, à son bord. Et donc en 11 ans, il fait une espèce de balancement qu'on a pu tout à fait calculer. Et voilà le balancement du Soleil, comme on le verrait si on était à une dizaine d'années-lumière au-dessus du plan de notre système planétaire. Et vous voyez, il passerait de l'an 2000, on est là, en l'an 2005, il viendrait là, puis en 2010, il serait là, et puis il continuerait. Alors, il fait un balancement pas complètement régulier, parce que c'est Jupiter qui domine, donc on retrouve une période de 11 ans, mais il y a Saturne qui perturbe un peu, donc ça complique le mouvement. Donc, vous voyez, on pourrait voir, si on regardait avec beaucoup de soin une étoile de loin sur le ciel, on pourrait la voir bouger un tout petit peu. Ce balancement est infime, c'est 0,2 millième de seconde d'arc, alors c'est un chiffre extrêmement petit, mais bon, on commence à être capable à le faire, dans pas longtemps on le fera, donc c'est pour vous dire qu'on les verra, ces balancements. Pour le moment, on n'a pas réussi. Mais il se trouve qu'il y a autre chose, c'est que quand le Soleil tourne comme ça, il se balance aussi, vous voyez, par rapport à vous, d'avant en arrière. Alors comme il se balance d'avant en arrière, il y a un autre effet, qui va être l'effet magique, que je vais essayer de vous faire voir. Mais là, je me lance dans une expérience extrêmement dangereuse, et je ne sais pas si... Enfin, on va essayer. Non, elle est intéressante parce qu'elle va vous faire comprendre deux choses à la fois. Si je réussis. Sinon, vous comprendrez. Alors, il faut déjà que ça marche. Ce qui est... Alors, écoutez bien. Je vais le faire de manière à ce que vous entendiez quelque chose. Est-ce que vous entendez quelque chose? Alors, ceux qui sont attentifs ou qui connaissent un peu la physique, ils savent que, normalement, comme j'ai tourné dans ce plan-là, vous avez dû entendre par moments le réveil venir vers vous plus aigu, puis s'éloigner plus grave. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais si vous l'avez entendu, l'expérience est réussie. Ah oui, quand on fait de la recherche aussi, on fait des expériences. Parfois, elles sont réussies, parfois, elles sont ratées. Alors, maintenant, je refais l'expérience. Et vous allez tout de suite voir où est le problème. Vous voyez, si je tourne comme ça, vous ne pouvez pas entendre de variation. Donc, vous allez vous dire, mais alors, quand j'entends une variation de son, alors effectivement, ce n'est pas le son dans ce cas-là, c'est la lumière des étoiles qui va être un peu décalée dans le bleu, dans le rouge, dans les petites longueurs d'onde, grandes longueurs d'onde, c'est le même effet transposé à la lumière. Si cet effet-là, il est produit par une planète qui tourne autour de mon étoile et a la gentillesse de le faire comme ça par rapport à moi, je vais bien l'entendre. Mais si la planète elle tourne comme ça et l'étoile fait ça, je ne vais rien entendre du tout. Et comme je ne sais pas où tourne la planète, vous voyez qu'il va y avoir un petit problème, je ne saurai jamais exactement quelle est la masse de cette planète qui est en train de faire bouger mon étoile. Alors c'est un petit problème, ce n'est pas grave. On commence par se dire, bon, on commence par entendre quelque chose et puis après on discute. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc la méthode, je l'ai appelée le peigne fin. On a passé les étoiles au peigne fin, si vous voulez. Pourquoi? Parce que quand on regarde la lumière d'une étoile, c'est un... J'en ai combien encore?
Un quart d'heure.
C'est donc la lumière de l'étoile, bon, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel quand on regarde ça très grossièrement, puis quand on regarde mieux, on voit qu'il y a des petites raies. C'est-à-dire qu'il y a des atomes dans l'atmosphère de l'étoile qui chacun vibrent à une longueur d'onde, et enlève la lumière. Et ça fait que finalement, quand on regarde la lumière d'une étoile, on ne voit pas, en fait, comme une belle variation de la luminosité avec les couleurs, mais on voit une espèce de fouillis comme ça de choses, que j'ai appelé un peigne, effectivement, et qui est un nombre considérable de raies. Alors j'ai agrandi là une partie, et puis en dessous, encore agrandi, et vous voyez que l'ensemble de ces choses-là sont des endroits très précis dans la lumière de l'étoile, et quand elle avance, à ce moment-là, c'est décalé d'un côté, quand elle recule, c'est décalé de l'autre. Et il y en a tellement qu'on arrive à le mesurer avec une précision extrême, et c'est ce qui a été réussi pour la première fois par deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, à un observatoire français, l'observatoire de Haute-Provence, et ils ont réussi à voir ce mouvement d'ensemble de ces raies qui ont donné, finalement, cette mesure du balancement, vous voyez, cette courbe-là, c'est quelque chose qui s'est répété tous les 3 jours. On voyait toutes les transitions de la lumière aller d'un côté, puis elle revenait, puis elle allait de l'autre côté, elle revenait. Et ça nous a donné une période de 3 jours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui faisait balancer l'étoile en tournant très près, parce que 3 jours, ça veut dire qu'on est tout près. Et ça donnait une idée de la masse, puisque si c'était dans le plan, il n'y avait pas besoin de beaucoup de masse pour le faire, mais vous voyez que si c'était comme ça, alors là, pour faire avoir ce qu'on en a dans le sens, là, il fallait beaucoup plus de masse. Donc, il y avait une petite ambiguïté, mais ça y est, la première découverte était faite et confirmée, et donc on commençait à avoir des planètes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toute la méthode, il y a des choses amusantes, mais je crois que c'est bien de voir qu'on a commencé à en trouver quelques-unes par cette méthode, puis d'autres, et ça entraînait d'ailleurs le titre de mon livre, Il pleut des planètes, parce qu'on voit qu'à partir du moment où on en a une, on sait que ça marche, beaucoup d'autres gens s'y mettent, et puis aussi, on améliore les mesures, et donc on commence à voir d'autres choses. Alors, entre autres, on avait découvert très vite qu'autour de l'étoile Upsilon Andromède, on avait une planète comme ça qui avait été trouvée et dont l'orbite était elle aussi très très proche de l'étoile. C'est-à-dire que c'était à l'échelle là, quelque chose à peu près comme Jupiter d'ailleurs, qui tournait comme ça, toujours en quelques jours, comme 51 Pégase, la première qui a été découverte. Donc vous voyez, c'est des planètes géantes, mais assez étonnantes. On ne s'attendait pas du tout à les trouver là. Mais alors, plus amusant, c'est qu'une fois qu'on l'a découvert autour d'Epsilon Andromède, on a continué à surveiller son mouvement. Puis on a vu que le balancement, comme tout à l'heure le Soleil, le balancement, ce n'était pas juste 3 jours, c'était 3 jours, et puis ça se décalait un peu, puis un peu plus, puis un peu plus. Et puis au bout d'un moment, on a réalisé qu'il fallait rajouter une deuxième planète qui perturbait la première. Mais évidemment, comme elle est plus lointaine, elle a un effet plus petit sur le balancement, donc c'est une perturbation, puis une troisième planète, etc. Donc on a même trouvé un système à 3 planètes géantes, Upsilon Andromède, par cette méthode. Donc on a non seulement des planètes, mais on a des systèmes planétaires. Et donc le grand résultat, parce qu'on pourrait dire, attendez, quand même, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve des balancements d'étoiles. Alors moi je veux bien, un balancement d'étoiles, c'est formidable, c'est des planètes, je veux bien être gentil, mais quand même, moi je veux vraiment une preuve solide. Et c'est vrai, on aurait pu imaginer, on avait quand même une bonne idée de la masse, c'est correct, mais on aurait pu imaginer des tout petits trous noirs qui faisaient ce travail, des choses qui n'avaient rien à voir avec des planètes, des choses exotiques. Maintenant, on est sûr que ce sont des planètes, parce que, après en avoir trouvé plus d'une vingtaine, on s'est mis à les regarder en se disant, mais si par chance, il se trouve que la planète passe juste dans l'axe de mon regard, elle va peut-être passer comme ça, juste devant l'étoile à un moment donné. Et puis comme elle n'est pas très loin, ça a des chances de se produire. Donc, après avoir surveillé toutes ces planètes, il s'est passé la chose extraordinaire en septembre 1999. Et bien voilà, une planète est passée devant son étoile. Et juste au moment où on l'attendait, c'est-à-dire qu'on savait qu'elle devait être devant. Donc c'était bien, mais mieux que ça, c'est-à-dire qu'en plus, maintenant on savait exactement sa masse, et deuxièmement, on savait sa dimension. Alors ça, c'est beaucoup de gens croient que c'est une image, une photo qui a été faite par je ne sais pas quel instrument magnifique, mais c'est un dessin, simplement. On ne voit pas la planète de cette façon-là, ça serait extraordinaire. Un jour, peut-être, on le fera. Mais ce qu'on a vraiment vu et mesuré, c'est ça. C'est-à-dire la lumière de l'étoile, vous voyez, qui est là, qui brusquement, au cours d'une nuit, s'est mise à chuter. C'est exactement l'exemple que j'ai montré de Beta Pictoris tout à l'heure. Sauf que là, il a pu être revu plusieurs fois parce qu'elle tourne tous les 3 jours, donc il suffit d'attendre pas très longtemps. Et on a pu revérifier que chaque fois, on voyait cette courbe se reproduire. Et ça nous donne une idée, simplement par la profondeur, ça nous donne une idée de la taille de cette planète, enfin, de l'objet d'une certaine masse qui est passée devant. Et comme maintenant on connaît sa masse et sa taille, on connaît donc son volume en faisant l'hypothèse que c'est sphérique. Je vous ai dit, les vaches sphériques, on les retrouve tout le temps. Mais c'est raisonnable quand même. On imagine mal que ce soit autrement. Et du coup, on a trouvé une densité inférieure à celle de l'eau, c'est-à-dire un peu une planète du genre de Saturne. Mais maintenant, on est sûr, on a des planètes, on les tient. Et il me reste combien de temps ?
10 minutes.
Et donc, on en est à peu près aujourd'hui, une quarantaine. Là, vous voyez, c'est déjà un dessin qui est un peu vieux. Moi, il n'y en avait qu'une quinzaine quand j'avais fait le livre il y a un an. Vous voyez, ça avance vite. Maintenant, dans cet exemple-là, de cette liste de planètes, vous voyez qu'il y en a énormément qui sont trouvées tout près de l'étoile. Ce qui est indiqué là, c'est la position de l'étoile. Et puis la position de la planète trouvée. Alors il y a le système d'Upsilon Andromède avec 1, 2 et 3 planètes, mais c'est le seul système pour le moment. Mais en regardant les autres avec soin, petit à petit, vous voyez qu'avec le temps, on finira par trouver d'autres choses. Bien sûr, plus elles sont loin, plus la période est longue, plus il faut du temps d'observation pour en être sûr. Mais donc, vous voyez, on commence à en avoir énormément. Et le fait qu'elles soient très proches des étoiles, celles qu'on trouve, n'est pas dû au fait que dans les systèmes planétaires, ailleurs, les planètes géantes sont à côté des étoiles. Mais c'est simplement dû au fait que cette méthode-là est beaucoup plus sensible à ce genre d'objets. Et cette méthode est sensible aux planètes proches des étoiles, et cette méthode est sensible aux planètes les plus massives, bien sûr. Mais maintenant, il y en a tellement qu'on commence par, on peut même en faire un espèce de décompte. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais combien a-t-on de planètes entre 0 et 1 fois la masse de Jupiter, c'est-à-dire de masse plus petite que Jupiter. Et vous voyez, c'est le plus grand nombre, il y en a une dizaine. Celles qui ont entre une masse de Jupiter et deux masses de Jupiter, un peu plus gros que Jupiter, il n'y en a plus que 6 ou 7 là. Entre 2 et 3, il n'y en a plus que 4, etc. Donc vous voyez que ce qu'on remarque, c'est que plus on a une grande masse, moins on en trouve, et plus on a une petite masse, et plus on en trouve. Alors que je viens de vous dire, la méthode est sensible, plus la masse est grande, plus elle est sensible, évidemment. Donc là, on est en train d'être tout à fait convaincu qu'on est en train de trouver des planètes. On sait maintenant que plus les masses sont petites, plus elles sont nombreuses. Donc quand notre méthode sera de plus en plus sensible pour les plus petites masses, on va en voir de plus en plus. Alors que de l'autre côté, avant d'arriver à atteindre les masses des étoiles qui se trouveraient par là, enfin près du spot lumineux là-bas, on ne trouve plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide entre d'un côté les étoiles, de l'autre côté les planètes. C'est deux mondes différents, pour une raison simple, c'est qu'ils sont fabriqués de façon complètement différente. Donc maintenant, on sait, on comprend, on a même une idée du nombre. Et c'est la diapo suivante qui est que le nombre, en fait, maintenant, si on est strictement prudent au nombre d'étoiles surveillées et combien on a trouvé de planètes, on extrapole à notre galaxie, on devrait avoir de l'ordre de 50 milliards de systèmes planétaires dans notre galaxie. Si on est un peu moins prudent, ça veut dire en fait quelques pourcents des étoiles, entre 3 et 5% des étoiles. Si on voit combien de systèmes planétaires sont nés avec un disque, ont évolué vers la formation de systèmes avec des planètes, et en se disant celles de plus petite masse, on ne les a pas encore trouvées, on peut aller jusqu'à 10 fois plus, donc 5 milliards en étant strictement prudent, 50 milliards en étant un peu plus optimiste, mais de toute façon, c'est des chiffres absolument colossaux. Alors, oui, ça c'était une image pour montrer une planète qui aurait été vue directement, jusque-là ça n'a pas été réussi, et là non plus ça n'a pas été réussi, c'était avec le télescope spatial, après en regardant de près cet objet, c'était par hasard, une étoile beaucoup plus lointaine qui était alignée avec ce jet qu'on a cru être éjecté d'un système d'étoiles doubles. Mais ceci dit, ça arrivera un jour, et donc on aura un jour une image directe d'une planète comme ça. Donc l'image, la dernière diapo, va vous montrer que c'est un tout petit coin de notre galaxie, vous voyez, chaque point là, c'est une étoile, et quand je vous parle de 5 milliards ou 50 milliards de systèmes planétaires, c'est des chiffres tellement énormes qu'on n'arrive même plus à les imaginer, mais ça nous donne l'impression qu'il doit y avoir un monde fou, une quantité incroyable de systèmes planétaires, rien que dans notre galaxie, et si c'est vrai, on se dit, du coup, avec ces découvertes, on doit se dire, mais il doit y avoir peut-être la vie qui est apparue dans beaucoup d'endroits, et si la vie est apparue, peut-être des civilisations, des gens comme nous, etc. Donc je vais conclure sur un aspect très, très étonnant, c'est que, curieusement, cette conclusion, eh bien, on va arriver à l'inverse. Alors, il me reste combien, là ? 5 minutes, vraiment ?
5.
Ah. Alors, il faut que je fasse vite. Alors, je suis désolé de vous annoncer que nous sommes dans un endroit absolument nul dans la galaxie, consternant de banalité, et ça, vous vous en doutiez, mais enfin, je vais vous le confirmer. C'est-à-dire que notre planète, ce n'est pas la plus grande, ce n'est pas la plus petite, ce n'est pas la plus proche, ce n'est pas la plus lointaine du Soleil. C'est notre Soleil, ce n'est pas l'étoile la plus brillante, la plus faible, elle n'est pas au début de sa vie, elle n'est pas à la fin de sa vie. Dans la galaxie, le Soleil n'est pas au milieu, il n'est pas au bord. Tout ce que vous essayez de voir, c'est moyen. Alors on se dit, bon, alors si c'est moyen, tant mieux. Ça veut dire que peut-être on a des chances d'en trouver plein d'autres moyens comme nous. Alors, donc ça va toujours dans le sens de se dire il doit y avoir plein de systèmes planétaires avec plein de civilisations dessus en étant très optimiste, très euphorique. Mais il y a un contre-argument qui est celui-là. c'est si on ramène l'âge de l'univers, qui est de 15 milliards d'années, à exactement une année. À ce moment-là, on réalise qu'il y a un énorme problème. Alors le Big Bang dont je vous ai parlé au début a lieu donc le 1er janvier exactement, et aujourd'hui, on est le 31 décembre à minuit. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passe dans cette année cosmique, mais essentiellement, le système planétaire, le système solaire, va naître le 13 septembre de l'année. C'est-à-dire, vous voyez que l'année est déjà bien avancée, on est en septembre, et seulement commence à naître notre Soleil et notre Terre quelques heures après. Enfin, c'est assez rapide quand même, finalement. Mais, alors, dans l'échelle du calendrier, bien sûr. La vie apparaît très vite, on a des premières traces de vie dès le début octobre, donc sur la Terre, donc on se dit, mais il y a quelque chose qui fait que ça se fait, finalement, à partir du moment où il y a de l'eau, ça doit être assez raisonnable. Et puis, cette vie évolue, et puis va commencer à faire une atmosphère d'oxygène pour aller rapidement, début décembre. Donc, vous voyez, l'atmosphère que vous respirez tous les jours et qui vous rassure tellement, eh bien, elle n'existait pas avant le début décembre. C'est justement des algues microscopiques qui l'ont faite petit à petit. Alors, au mois de décembre, on se dit, ah ben, ça y est, c'est agréable, on va respirer de l'oxygène. Il va se passer des tas de choses, mais il faut quand même attendre la mi-décembre, vers le 15 ou le 16 décembre, pour voir les premiers êtres multicellulaires. C'est-à-dire que la vie jusque-là est restée monocellulaire, extrêmement simple. Elle va commencer à se complexifier que vers la mi-décembre, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à évoluer beaucoup plus vite. On va voir les poissons, les premières plantes vont apparaître vers le 20 et quelques décembre, je me lis mieux là-dessus. Le règne des dinosaures, c'est le 24 décembre, pas loin de Noël. Ça dure quelques jours, d'ailleurs, ils sont restés sur la Terre très très longtemps. Les premiers cétacés, les premiers primates, le 29 décembre. La fin des dinosaures, vous savez, il y a eu une chute d'un astéroïde peut-être sur la Terre ou d'autres événements catastrophiques, mais enfin, en tout cas, ils ont disparu le 30 décembre. Alors on se dit, bon, mais alors et nous ? Eh bien, heureusement, le 31 décembre, on apparaît, les premiers humains. Alors vous me dites le 31 décembre, mais attendez, n'allez pas si vite. Le 31 décembre, à 14h, le premier singe descend des arbres. À 15h, les Alpes se forment en Europe. Quand vous allez faire du ski, par exemple, vous vous dites je suis sur du solide et tout ça. Ben non, ça a été fait à 15h le 31 décembre. Alors les premiers humains, Lucie, vous savez l'Australopithèque, Lucie, vous la trouvez, elle apparaît vers 21h30. Vous voyez, tard dans la soirée, quoi. Et nous, alors, l'âge de pierre, c'est 23h, le contrôle du feu, 23h46. Alors, finalement, on se dit, bon, ben alors, l'homme d'un Néandertal, 23h57. Et toute notre civilisation, depuis les pyramides d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est les 10 dernières secondes de cette année cosmique. Donc, on se dit vraiment, bon, on est là depuis pas longtemps. Et, bon, on peut continuer à broder. Minuit moins 4 dixièmes de seconde, déclaration des droits de l'homme. Première tentative de communication extraterrestre, vous voyez, c'est un problème aussi, c'est depuis 8 centièmes de seconde seulement. Le premier homme sur la Lune, 6 centièmes de seconde, donc on a une civilisation technologique depuis pas si longtemps quand même. Une planète autour de Beta Pictoris, 36 millièmes de seconde, bon. La première planète, 8 millièmes de seconde, autour de 51 Pégase. Mais bon, alors ce qui nous intéresse, c'est, et maintenant, l'année suivante, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là ma conclusion, c'est que l'année suivante, d'abord, je vous ai dit, la prochaine éclipse totale qui aura lieu le 21 juin 2001, c'est dans 17/10 millièmes de seconde, donc il ne faut pas la rater. Mais par contre, l'humanité va occuper tout le système solaire dès le 1er janvier, 0h, 0 minute et 1 seconde. Pourquoi je dis ça? Pas parce que je suis un optimiste délirant, parce qu'une seconde, c'est 500 ans. Et j'admets que dans 500 ans, on va avoir une station en orbite, on va commencer à aller sur Mars dans, mettons, une vingtaine, une trentaine d'années. Toutes les planètes du système solaire, dans le système solaire, c'est garanti dans 500 ans, et je suis probablement très pessimiste. Mais alors, la chose incroyable, c'est que rien va nous empêcher après d'aller jusqu'aux étoiles, je ne développe pas ça, mais si on fait l'analyse et on se rend compte que, finalement, aussi loin soit-elle, eh bien, on devrait y arriver. Dès le 2 janvier, on devrait être même dans toutes les étoiles de notre galaxie. Alors à partir du moment où on se dit ça, on se dit mais c'est incroyable, parce que s'il y a autant de planètes partout, si la vie a pu apparaître partout, si la vie a évolué vers des gens comme nous aussi facilement partout, etc., et s'il y a autant de civilisations, comment ça se fait que le 13 septembre de cette année soit apparue la première civilisation dans notre galaxie? C'est bien évident qu'un jour avant, il y en avait plein. Il y a 50 millions de nouveaux systèmes planétaires par jour dans notre galaxie, par jour du calendrier cosmique. D'où, vous voyez, il aurait suffi d'une civilisation qui a une journée d'avance quelque part pour qu'elle soit déjà là. Donc, plus on trouve de planètes, plus ça montre qu'il devrait y en avoir, et comme on n'en a pas vu, plus ça montre peut-être qu'on est bien seul. Et donc ça, c'est ma conclusion. Sauf que la fin du système solaire, je peux vous l'annoncer quand même, ça sera le 1er avril de l'année suivante. Voilà, merci.
Ma question est la suivante. Comment explique-t-on la formation de planètes géantes aussi proches de leur étoile ?
Alors, la manière de l'expliquer est la suivante. C'est que les planètes géantes, comme je vous l'ai dit, se forment très tôt, dans le premier 10 millions d'années, au moment où le disque est encore présent. C'est-à-dire que j'ai un disque de gaz et de poussière très dense qui est encore là. Et dans ce disque vont se former des endroits où la matière va commencer à se condenser et va commencer à faire une proto-planète géante, un peu comme ça. Mais à partir du moment où on l'apparaît, on peut montrer que dans ce disque, sa présence-là va perturber le comportement des particules dans le disque autour, qui vont en partie tomber sur la planète et en partie dériver, mais le résultat global, c'est que la planète va lentement dériver vers l'intérieur. Et cette planète, en fait, en dérivant vers l'intérieur, va se rapprocher de l'étoile et même éventuellement tomber dans l'étoile. Donc le problème en fait qui est apparu, c'est qu'on peut trouver des mécanismes pour faire dériver ces planètes une fois qu'elles se forment. Tant que le disque est présent, elles peuvent dériver vers l'intérieur, et donc on le comprend. Mais le problème que ça pose, c'est que cette dérive est très rapide, et qu'on se dit, dès qu'une planète se forme, en général, il faut que 100 000 ans, alors que je vous ai dit, c'est 10 millions d'années, l'ordre de grandeur pour former ces planètes. Alors, donc on se dit, dès qu'elles apparaissent, en 100 000 ans, pof, elles tombent dans l'étoile centrale. Et là, il y a un problème, c'est... Alors, chaque fois que j'en fais une, elle tombe dans l'étoile et je vais la perdre. Comment ça se fait qu'elle survive et comment ça se fait en plus qu'elle ait l'air de survivre juste à côté de l'étoile? Donc, c'est un autre problème qui a émergé. C'est qu'on voit maintenant comment les faire. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais l'idée surtout, c'est de dire maintenant comment les arrêter. Alors, comment les arrêter? Il y a aussi plusieurs solutions, mais l'une d'entre elles est la suivante. C'est de dire, une fois que je m'approche beaucoup de l'étoile, à ce moment-là, ma planète va commencer à subir le champ de gravitation de l'étoile. Et à un moment donné, une partie de la matière de cette planète va être prise par l'attraction de l'étoile et va être perdue et va tomber dans l'étoile. Et à partir de ce moment-là, la planète perd de la masse. Et dès qu'elle perd de la masse, elle arrête de se rapprocher puisqu'elle tourne à une certaine vitesse avec moins de masse, donc elle va en fait s'éloigner. Donc en fait, elle va se mettre à un endroit plus ou moins en équilibre, à une certaine distance de l'étoile. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon d'arrêter, c'est qu'à partir du moment où la planète se forme et dérive, il suffit d'enlever le disque et elle s'arrête. Donc il se peut que le disque est en train de disparaître aussi à cause de vent de l'étoile, à cause de plusieurs raisons. Mais le résultat final, c'est que les planètes vont effectivement peut-être trouver des moyens de s'arrêter. Et là, c'est en plein dans un débat de recherche actuelle. C'est bien comprendre pourquoi et de voir si on arrive à retrouver le nombre de planètes qu'on a trouvées si proches de leurs étoiles.
Oui, bonjour. Ici. Ah oui. Vous avez l'air de décrire l'univers comme un monde fini. Comment est-ce que l'univers peut être en même temps homogène et isotrope et en même temps être fini? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est s'il y a un nombre infini ou quasiment infini d'étoiles, pourquoi est-ce que la gravitation ne s'équilibre pas? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt vers l'infinité d'étoiles, qui représente une masse beaucoup plus forte, même si elle est beaucoup plus loin, que vers la masse du Soleil?
Pour la deuxième question, la réponse est simple. C'est l'effet quand même du Soleil, je dirais, est de très loin dominant par rapport au reste. Donc, je dirais la réponse là est simplement de proportion entre l'un et l'autre. Par contre, le problème de l'univers infini, de l'univers fini, est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que j'ai l'air de décrire l'univers comme étant fini, mais en fait c'est faux. L'univers, je le décris comme l'univers observable. C'est-à-dire quand je vous ai dit qu'il y a une limite, une frontière, jusqu'à où je vois, c'est une frontière qui est limitée simplement à l'âge de l'univers. En fait, je ne peux pas voir plus loin que 15 milliards d'années parce qu'à ce moment-là, je vois la naissance de l'univers. Et c'est le mur que je vous ai montré. Et donc, je ne peux pas voir plus loin. Mais si j'attends, dans 5 milliards d'années, on sera à 20 milliards d'années, à ce moment-là, je verrai à 20 milliards d'années. Et donc, je verrai plus de choses, je verrai un univers plus vaste et des galaxies nouvelles que je ne peux pas voir aujourd'hui apparaîtront à l'intérieur. Donc, en fait, mon univers est bien infini, mais sa limite de visibilité est limitée par l'âge de l'univers et la vitesse limite de la lumière. Donc, j'ai décrit un univers fini, mais ce n'était qu'une apparence. Il est, ou il peut être, en tout cas, tout à fait infini, il n'y a pas de contradiction.
Oui, je voulais justement savoir par quels moyens on a pu voir cet univers fini. Télescope, radiotélescope.
Ah oui, l'image que j'ai montrée, c'est un télescope dans les longueurs d'onde radio, qui est de très courte longueur d'onde, qui était mis sur un ballon et qui a tourné autour du pôle sud pendant assez longtemps pour arriver à faire toute une image d'une partie du ciel avec beaucoup de précision en termes de résolution en angle. Parce qu'on avait déjà eu un satellite qui avait fait une image du ciel tout entier et on savait déjà que le ciel tout entier était complètement homogène, et d'ailleurs homogène d'une manière complètement étonnante puisque à un cent millième près, il n'y avait pas de fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui soient aussi homogènes qu'on connaisse aussi homogènes. Donc l'univers avait l'air d'être... On voyait de la lumière qui venait de tous les points du ciel, exactement identique, à un cent millième près. Et ça, c'était très troublant, parce qu'on ne voyait pas comment ces endroits de l'univers qui étaient si loin de... Nous, on les voyait, mais ils sont tellement loin l'un de l'autre qu'ils n'ont jamais eu le temps de se parler. Alors comment ont-ils su qu'ils devaient être à la même température, en fait, ou à la même luminosité. Et ça a été un des gros problèmes de la cosmologie qui a été résolu par ce qu'on appelle l'idée de l'inflation, qui est une manière de mettre en communication l'ensemble très tôt au moment de la naissance du Big Bang. Il y a eu une espèce de dilatation extrêmement violente qui s'est faite, et puis maintenant, on a une dilatation beaucoup plus normale.
Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait découvert trois planètes autour d'un pulsar. Comment peut-il exister des planètes autour d'un pulsar ?
Ah oui, alors là, c'est très drôle parce que c'est l'histoire classique. Si vous avez déjà perdu vos clés et qu'il y a un réverbère pas loin, en général, vous allez les chercher sous le réverbère parce que là, il y a de la lumière et c'est facile de chercher. Alors qu'aller chercher les clés dans l'obscurité où vous les avez perdues, c'est désespéré. Alors... Le fait est, c'est qu'on s'est mis à chercher des planètes autour des pulsars, non pas parce qu'on pensait qu'il y avait des planètes, on était sûr même qu'il n'y avait pas de planètes. Et puis on s'est dit, bon, ben, on va regarder. Et d'ailleurs, quelqu'un a fait l'expérience une première fois et a découvert une planète, et ça a été annoncé, c'était extraordinaire. Et puis le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a réalisé que cette planète qu'ils avaient découvert, c'était la Terre. C'est-à-dire... Non, mais vous riez parce que je le présente comme ça, mais les pauvres, c'était pas drôle. Parce que... Ils avaient fait tout avec extrêmement de soin, ils avaient vérifié plein de choses. Enfin bon, c'était malheureusement une erreur, et comme ça peut arriver. Et cette erreur, et comme souvent en science, c'est ce qui se passe, c'est qu'une erreur va engendrer, au fond, on se dit, mais au fond, pourquoi pas. Et donc, un an après, d'autres ont dit, ben, on va regarder d'autres pulsars avec beaucoup de soin. Et en les regardant avec beaucoup de soin, ils ont réalisé qu'il y avait alors... Le pulsar, c'est le même principe que là, sauf que ce n'est pas la lumière, c'est son pulse qui se met à avancer, à retarder, quand il se balance à cause des objets autour. Alors donc, pour revenir à la question, mais comment ça se fait alors qu'il y a des planètes, puisque normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, le « normalement », entre guillemets, ça n'existe pas dans l'univers. Il faut prendre l'habitude à ne pas dire « normalement, il ne doit pas y avoir quelque chose ». En général, on s'amuse beaucoup parce que ce n'est pas normal. Mais donc, on a trouvé quand même l'explication, c'est que ce pulsar, ou les pulsars où on trouve des planètes, parce qu'il y en a deux, sont des pulsars très particuliers qui tournent très vite. Et des pulsars qui tournent très vite sur eux-mêmes, c'est des pulsars qui ont eu, d'une façon ou d'une autre, un pulsar, normalement, il tourne et puis il ralentit. On ne voit pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que qu'est-ce qu'il peut l'accélérer. Enfin, il y a une chose qui peut l'accélérer. S'il y avait à côté une autre étoile et un compagnon qui a déversé de la matière dessus, à ce moment-là, ça peut effectivement le faire accélérer. Et cet objet peut être encore là. D'ailleurs, il y a des pulsars doubles qui vont tourner très vite, mais d'autres qui peuvent avoir disparu. Mais alors, du coup, on sait que les pulsars qui tournent très vite, c'est qu'ils ont été accélérés par quelqu'un d'à côté qui a dû leur faire tomber de la matière. Et quand on fait tomber de la matière sur un centre de masse, comme ça, ça se met à tourner, ça fait un disque. On dit, ah, si on fait un disque, à ce moment-là, peut-être qu'on va pouvoir s'amuser dans le disque. Effectivement, à l'intérieur d'un disque qui a été reformé de la matière d'une étoile à côté autour du pulsar, eh ben, l'histoire peut recommencer, entre guillemets. et s'est mis à faire des planètes. Enfin, c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a des planètes autour d'un pulsar, mais ceci dit, ça doit être des planètes d'une nature et de beau, à tout point de vue très différente de ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'on ne les mentionne pas vraiment comme les planètes extrasolaires découvertes. Ce qu'on voulait, c'était des planètes comme chez nous, quoi, celles qu'on aime bien.
C'est une planète exactement similaire à la nôtre, même masse, même diamètre et même orbite, tournait autour de l'étoile la plus proche de la nôtre, qui est, je crois, 4 années-lumière. Est-ce que nous la verrions? Et si la réponse est non, quand nous la verrons? Et la deuxième question, si cette planète était colonisée par une civilisation exactement identique à la nôtre, avec la même technologie, est-ce que nous pourrions la détecter par exemple, des ondes radio-électriques, radio-télévision ou autres?
Alors, la première question, on ne pourrait pas la détecter encore, mais on n'en est pas loin. Donc, c'est une question de, je dirais encore, peut-être entre 5 et 10 ans, parce que l'idée pour la détecter, c'est que c'est très peu lumineux. Le premier point, c'est que la Terre est vraiment toute petite. Vous avez vu la tête d'épingle tout à l'heure. Donc c'est très peu lumineux à côté d'une étoile très brillante. Donc il faut d'abord beaucoup de surface pour collecter les photons et la lumière pour arriver à la repérer. Et en même temps, un moyen très pointu pour arriver à se débarrasser de la lumière de l'étoile. Et l'idée, c'est d'utiliser des très grands télescopes comme les VLT qui sont au Chili en ce moment, mais il y en a d'autres aux États-Unis qui s'appellent les Keck, qui sont deux grands télescopes de 10 mètres ou le VLT, quatre grands télescopes de 8 mètres. Et ça sera de les faire marcher en interférométrie, c'est-à-dire qu'ils vont marcher d'une manière telle qu'ils vont être à peu près, entre guillemets, équivalents à un télescope de beaucoup plus grande taille. Ce qui fait que la grande taille leur permet de voir une zone très très étroite sur le ciel et se débarrasser du reste, donc se débarrasser de la lumière de l'étoile. Et par contre, leur grande surface permet de collecter le très peu de lumière qui va nous arriver. Donc c'est une chose qui est en train d'être mise en place et donc dans, je dirais, entre 5 et 10 ans. Ça va souvent plus vite qu'on l'annonce, mais bon, parfois ça va moins vite, donc je ne mettrai pas ma tête à couper là-dessous, mais bon, c'est dans pas très longtemps, quoi. Et l'autre question, c'est s'il y avait une civilisation comme la nôtre, oui, on la détecterait très facilement. Sauf qu'il faut que vous réalisiez que notre civilisation émet de manière significative des ondes radio, des tas de choses comme ça, que depuis une cinquantaine d'années. Donc, en fait, ce n'est que dans une sphère de 50 années-lumière qu'on peut nous détecter. Alors, inversement, le même argument se pose. Mais enfin, à 4 années-lumière, si elles avaient évolué exactement comme nous, eh bien, on pourrait les détecter facilement et même enregistrer leurs émissions de télé, peut-être. Mais je ne sais pas quelle chaîne, je ne peux pas vous dire.
Bonsoir. Je voulais vous poser une question, c'était sur Jupiter, parce que vous avez dit que Jupiter tournait autour du Soleil en 11 ans, et or le cycle du Soleil est à peu près de la même, même période, et je voulais savoir si ça avait un effet sur le Soleil, parce que vous avez dit que ça avait un mouvement de, je ne sais plus, c'était 0,2 millisecondes d'arc à peu près.
Oui, non, l'effet dont je parlais, c'est l'attraction du Soleil qui le déplace dans l'espace parce que Jupiter l'attire un peu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une coïncidence troublante entre les 11 ans de l'orbite de Jupiter et le cycle du Soleil. Des gens y ont pensé, se sont posé cette question. Je ne suis pas complètement au courant, peut-être que depuis, on a trouvé des réponses, mais enfin, là où j'en étais resté, c'était que bon, ce n'était qu'une coïncidence. Mais vous savez, des coïncidences, il y en a. Il faut vraiment faire très attention. Par exemple, quand vous réalisez que la taille de la Lune est égale à la taille du Soleil, alors que c'est deux objets incroyablement différents. D'ailleurs, c'est un truc assez drôle, parce que quand on prend les têtes d'épingle, comme ça, et on se dit, moi je suis sur la Terre, je suis une tête d'épingle, et puis je me mets à 5 mètres, donc imaginez que je me mette à 5 mètres, et donc mon œil c'est la Terre, je suis sur la Terre, et je me dis, je vais me mettre devant mon œil l'autre tête d'épingle, pour arriver à cacher l'orange, on se rend compte qu'effectivement, il faut la mettre à 1 cm. Et donc, vous voyez que l'échelle du système Terre-Lune, on l'a directement comme ça, en se disant, tiens, je veux faire une éclipse du Soleil totale, alors il faut que je me ramène l'épingle dans l'œil, ce qui est très désagréable, par ailleurs. Mais c'est une coïncidence, je veux dire, il n'y a aucun lien entre la taille de la Lune et du Soleil, bien entendu.
Oui.
Vous dites qu'on peut, à la fin de votre conférence, qu'on va coloniser les galaxies, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va naviguer à l'aveuglette parce que les étoiles, elles ne sont plus là. elles sont dans le passé et en plus elles sont déviées par la lumière d'autres étoiles. Alors ça reviendrait à aller chez un ami qui a déménagé et qu'on n'a pas de nouvelle adresse. Parce qu'elles ne sont plus là, les étoiles. Elles sont déplacées entre temps.
Oui, oui, non, c'est en partie vrai et en partie faux. C'est-à-dire que la durée de vie des étoiles, c'est des milliards d'années. La taille de la galaxie, c'est 100 000 ans. Donc en 100 000 ans, ou même là quand j'ai dit qu'on met une journée pour aller dans toutes les étoiles de notre galaxie, alors d'autre part, on ira dans toutes les étoiles, donc il n'y a pas de problème, parce que même si elles ont bougé, on les trouvera en y allant. Mais enfin bon, donc la taille de la galaxie faisant 100 000 ans, et nous nous déplaçons même un peu plus lentement que la vitesse de la lumière, l'ordre de grandeur, c'est un jour pour y aller, c'est-à-dire de l'ordre de 50 millions d'années, mais même en 50 millions d'années, les étoiles n'ont pratiquement pas ni évolué, ni bougé, ni rien, enfin c'est minuscule. Non, pardon, elles ont bougé parce que tout tourne dans la galaxie, ça c'est vrai. Elles se seront déplacées, mais tout ce mouvement et tout ça est parfaitement connu. Donc, je veux dire, si vraiment on a une étoile, on connaît quelqu'un et on veut y aller, on pourra la retrouver. Ne vous inquiétez pas.
Bonsoir. Pour les acides aminés, par exemple, on a découvert que les hélices étaient dextrogyre, par exemple, enfin que le sens des hélices était bien précis, elles n'étaient pas bipolaires de droite à gauche, ici. Ah, c'est vrai. Et donc le sens des acides aminés des hélices était bien précis, c'était pas, comment dirais-je, une fois sur deux dans un sens, une fois sur deux dans l'autre. Est-ce que pour le mouvement des galaxies autour d'elles-mêmes, on a observé, bien que dans un espace à six directions, les choses soient plus subtiles, est-ce qu'on aurait observé quelque chose où c'est vraiment, grosso modo, au petit bonheur la chance, une fois sur deux dans un sens, une fois sur deux dans l'autre ?
Oui, c'est... Il n'y a aucun lien entre les deux phénomènes. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut répondre.
Non, ma question, ce n'est pas par rapport aux acides aminés. Est-ce qu'il y a.
Sur les galaxies, oui, elles sont absolument dans tous les sens, d'une manière complètement aléatoire. Il n'y a aucun sens privilégié, d'autant plus que le sens de rotation d'une galaxie, je dirais, entre guillemets, n'a pas tout à fait un sens, parce qu'il suffit de se mettre la tête en bas et ça tourne dans l'autre sens. Donc. Je veux dire, c'est même là-dessus qu'on peut travailler, c'est qu'on prend des centaines de galaxies et on peut faire des statistiques en disant, bon, bah, c'est des objets qui tournent dans tous les sens, qui sont inclinés de toutes les façons, de façon complètement aléatoire. Et à partir de ces études-là, on arrive à extraire des informations. Donc, non, je dirais qu'il n'y a rien de ce côté-là. Du côté de la biologie, je ne suis qu'un pauvre astronome, mais je ne peux pas vous répondre.
J'ai deux questions, s'il vous plaît. Une question rejoint justement celle qui vient d'être posée. Plus simplement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, étant donné qu'il existe deux sens de rotation, qu'est-ce qui peut bien déterminer que la rotation se fasse dans un sens plutôt que dans l'autre ? Première question. Et deuxième question, pourquoi le nombre de planètes de notre système solaire est-il si petit ?
La première question, je ne sais pas si elle était reliée au problème de la question de l'ADN de tout à l'heure, du fait que les molécules d'ADN sont toujours dans un sens et pas dans l'autre. Si c'est lié à ça, je ne peux pas vous dire. Je sais que du point de vue de la chimie, on trouve les deux espèces de manière équivalente. Mais à part ça, pourquoi la vie a choisi l'une plutôt que l'autre, ça je ne sais pas. Oui, j'ai oublié quelle était l'autre question. C'était quoi ?
Non, je le disais simplement sans relation avec les molécules. Pourquoi ça tombe dans un sens et pas dans l'autre ?
Non, mais c'est ce que j'ai
dit. Qu'est-ce qui provoque le sens finalement ?
Mais encore une fois, il n'y a pas de sens. Vous devriez faire un voyage dans l'hémisphère sud. Et vous comprendriez tout de suite, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quand on arrive, moi je suis allé dans l'hémisphère sud la première fois, on est là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est vrai. On est complètement habitué dans notre inconscient à voir le soleil se lever, la lune bouger, les trucs tourner dans un sens. Et on arrive dans l'hémisphère sud, et puis bah, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, tout tourne dans l'autre sens, la lune est à l'envers. Tout... En fait, tout est pareil, mais on n'a pas réalisé que c'est nous, on est nous la tête en bas.
Non, bien sûr, je suis d'accord avec
ça. Et donc, il n'y a pas de sens, je veux dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un sens plutôt.
Un sens dans le sens où on pourrait arrêter la Terre de tourner dans ce sens-là et la faire partir dans l'autre sens. Ça, c'est bien réel.
Ah, pourquoi toutes...
Donc, vous voyez bien qu'il y a un sens, quand même.
Pourquoi toutes les planètes tournent dans le même sens ? C'était ça, votre question.
Non, non, pourquoi c'est ce sens-là qui l'a emporté sur l'autre ?
Ah ben, parce que... Alors, non, alors là, il y a une réponse. Parce que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans un certain sens. Vous êtes d'accord qu'elles tournent toutes dans le même sens, parce qu'elles sont issues d'un disque qui tournait globalement autour de cette étoile au départ. Tout tourne dans ce sens-là. À partir du moment où tout tourne dans ce sens-là, à l'intérieur, quand on forme un objet, vous verrez qu'à un moment donné, quand vous mettez de la matière qui tombe d'un côté ou de l'autre, vous allez faire en sorte qu'un côté va prendre plus de vitesse que l'autre. Et l'objet, en se formant, se met naturellement à tourner dans un seul sens. Et toutes les planètes tournent effectivement dans le même sens, qui est lié au sens de la rotation autour de l'étoile. Ça, c'est parfaitement clair. Il n'y a aucun problème, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des problèmes. Et un des problèmes, c'est bien sûr Uranus, qui est une planète qui ne tourne pas comme ça, mais qui est couchée par rapport au plan de l'écliptique, et qui tourne, alors, bon, il n'y a même plus de sens, puisqu'elle est couchée dessus, elle roule. Alors, à ce moment-là, évidemment, la manière d'expliquer ça, c'est qu'il y a eu un très gros impact sur Uranus, qui a fait basculer l'axe de rotation, et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à la limite, les planètes puissent recevoir des chocs et basculer, etc. Quoi.
Ma deuxième question, c'était pourquoi il y a si peu de planètes dans notre système solaire ?
Ah oui, pourquoi ? Ben, écoutez, je ne sais pas. Moi, d'abord, je trouve qu'il y en a pas mal. Vous en vouliez combien ? Non, mais je veux dire, je ne sais pas. Si on parle des petits corps, il y en a des milliers et des milliers. Si on parle même des très petits corps qu'on vient de découvrir, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui est au-delà de Pluton. Pluton, d'ailleurs, est probablement un membre de cette ceinture. Il y a 200 millions d'objets qui tournent dans la ceinture de Kuiper autour du Soleil. Alors, je veux bien qu'on ne les appelle pas des planètes parce que c'est trop petit et une planète, ça doit être présentable, ça doit être assez gros, je ne sais pas. Mais bon, il y a plein d'objets qui tournent autour du Soleil. Je dirais la définition d'une planète est un peu ambiguë, c'est-à-dire à partir de quelle taille on décide que c'est une planète. Là, je vous ai montré l'astéroïde Ida, il fait 50 km, c'est a priori une planète. Il a même un satellite, alors vous pensez. Alors qu'il y a des planètes qui n'ont même pas de satellite. Et je nommerai personne, parce que sinon...
Oui.
Civilisation éventuelle extraterrestre, nous-mêmes hommes, on est a priori le résultat de la chance et du hasard, d'après Stéphane Jégoul. Alors pourquoi, donc on avait très peu de probabilités en fait de développer notre intelligence, alors pourquoi veut-on obligatoirement parler de civilisation extraterrestre, d'intelligence, etc., alors qu'on avait vraiment, on a eu du pot quoi en fait.
Ben, moi je veux rien du tout. C'est justement, dans ces discussions-là, on peut avoir envie ou pas envie, on peut rêver, on peut ne pas rêver. La question, c'est est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas, c'est tout. Et la manière de se poser cette question, c'était de dire, bon, on avance dans le problème en regardant est-ce qu'il y a des sites favorables, est-ce que je vais trouver beaucoup d'endroits. On a cherché les systèmes planétaires, imaginez, on aurait pu n'en trouver aucun. Bon, il n'y avait qu'un seul système planétaire dans la galaxie, on se dirait, bon, ben, finalement, c'est peut-être pas étonnant. Mais on trouve l'inverse, on trouve qu'il y a plein d'endroits où il doit y avoir probablement, on ne les a pas encore vus, mais il y a probablement des terres. Toutes ces terres, il y en a peut-être qui vont se trouver à la bonne distance de l'étoile, donc avec des océans. Tous ces océans, il va y avoir des tas de petites choses qui vont se mélanger là-dedans et qui vont finir par donner des cellules qui vont faire une atmosphère d'oxygène. Et pourquoi pas, et après, etc., etc. Donc, je n'ai pas dit que je suis d'accord que ça ait lieu, j'ai dit, mais si tout ça a lieu, avec toutes ces probabilités qui ont l'air d'être plutôt favorables, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait qu'un endroit. Donc finalement, la conclusion est peut-être qu'il y a quelque part un obstacle terrible et qu'on ne connaît pas, qui aurait pu être dans la formation d'un système planétaire. Apparemment, ce n'est pas là. Mais ça peut être maintenant dans le passage de l'inerte au vivant. Il y a peut-être quelque chose dont on ne connaît pas, ça, bien sûr, encore. Donc là, il y a peut-être un passage tellement dur que c'est un événement exceptionnel qui a eu lieu et c'est pour ça qu'on serait seul. Mais ça peut être après. Une fois qu'on a fabriqué des cellules, peut-être que, bon, ben... En général, elles restent à l'état de cellules et elles n'arrivent pas à faire des choses plus compliquées parce qu'il y a un obstacle là encore qu'on ne connaît pas. Donc il y a peut-être des tas d'endroits où ça peut s'arrêter. Et alors à ce moment-là, la réponse, c'est bien celle que j'ai donnée. C'est du coup, il semblerait qu'on soit plutôt seul. Mais je ne le jurerais pas, il se pourrait que je me trompe.
Je vous remercie.